Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Une reprise, un masque sur le visage avec un maître à la main pour vérifier les distances de sécurité. Les restaurants, les cafetiers, les campings, les salles de sport ont repris quand même une activité ce matin. La reprise était attendue, mais elle sera contrainte. Il va falloir intégrer les protocoles sanitaires dictés par la crainte d'une deuxième vague. C'est le cas dans l'éducation nationale où 20% seulement des élèves du primaire ont retrouvé pour l'instant le chemin de l'école, les autres parfois pour une demi-journée de travail. Pas facile dans ces conditions de renvoyer le pays justement au travail. Alors la question commence à se poser, a-t-on trop arrêté l'économie, la vie sociale? Comment les parents peuvent-ils repartir au travail si l'école n'ouvre pas pour tous? Comment relancer vraiment l'activité à l'heure des protocoles sanitaires? La reprise, pas si simple, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos et éditorialiste à France Inter. Françoise Fressos, vous êtes éditorialiste politique au journal Le Monde. Votre édito du jour s'intitule « Paris ne danse plus, ne chante plus, ne joue plus pour la province, c'est la plus implacable des revanches ». Vous nous direz pourquoi. Fanny Guénochet, vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste des questions économiques et sociales. Et je rappelle votre chronique tous les matins dans la matinale de France Info. Enfin, Martin Blachier, vous êtes épidémiologiste, spécialiste en santé publique et vous dirigez la société Public Health Expertise, spécialiste de la modélisation des maladies. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. C'est le retour des jours heureux dont avait parlé Emmanuel Macron, Dominique Seux. Vous vous souvenez?
Non. Oui, il avait évoqué ce mot. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne sait pas. Ça n'est pas le retour à la normale. On aimerait tous que ce soit le retour à la normale, c'est-à-dire ce qui se passait au mois de janvier, février. En fait, on n'est pas du tout dans ce... Il faut inventer une nouvelle normalité, une sorte d'anormalité qui va devenir normale. Parce que l'économie, en fait, et il n'y a pas que l'économie, on va beaucoup parler d'éducation aujourd'hui, mais si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les restaurants, les cafés, etc., il y a ce qui est visible, et donc là, ce sont des bonnes nouvelles, mais ce sont aussi des contraintes. On voit de la distance sur les terrasses, que ce soit en région ou à Paris. On voit plus de précautions. Donc ça veut dire que c'est une activité qui redémarre pas tout à fait comme d'habitude, sous contrainte. Et puis, il y a tout ce qui est invisible. Et on va beaucoup en parler. Dans l'économie, ce qui est invisible, c'est 2 mois de chiffre d'affaires en moins pour cette activité des hôtels, cafés, des cafés-restaurants. Et puis, dans beaucoup d'entreprises, on commence jour après jour à découvrir les dégâts de ce... du confinement ou de ce qui s'est passé. Et donc nous sommes dans une période totalement, complètement nouvelle. On ne sait pas vers où nous allons. On sent que c'est quand même beaucoup mieux et donc il faut s'en réjouir naturellement. Mais il faut simplement avoir un seul chiffre en tête. Et même Bruno Le Maire a dit ce matin, la récession c'est de l'ordre de 11% cette année. C'est-à-dire que nous allons perdre cette année 260 milliards d'euros d'activité. 260 milliards.
Dans
c'est considérable.
Ces 11%, il y a aussi ce manque à gagner d'activité des cafetiers, des restaurants qui ont, on va le voir dans les reportages, qui toute la journée ont essayé de respecter les distances.
Ça veut dire que nous avons perdu énormément en avril, un peu en mars, énormément en avril, un peu moins en mai, peut-être encore moins en juin. Il y a des secteurs qui repartent, il y en a d'autres qui repartent moins vite, mais donc 260 milliards d'euros qui vont manquer, ce sont des revenus. Ce sont des résultats des entreprises, c'est des investissements, c'est beaucoup de choses à la fois. Et donc c'est ça qu'il va falloir essayer de compenser. Il faut, il va falloir trouver du muscle.
Du muscle, oui, de la détermination, de la volonté. Fanny Guinochet, ça va être compliqué dans les choses pas si simples qu'on va énumérer ce soir. Il y a aussi cette idée d'éviter le relâchement. On va sans doute voir des images toute la journée de gens qui sont tellement heureux de retrouver les terrasses, les piscines, que sais-je, les musées. Éviter le relâchement, c'est-à-dire que d'un côté on a la reprise et dans un instant je vais donner la parole à Martin Blachier qui va nous dire qu'il faut être raisonnable. Donc ça, dans la façon de gérer même son activité, pour les commerçants notamment, ça va être compliqué.
Ça va être difficile parce qu'il y a un certain nombre de salariés qui ont vécu les choses. C'était une parenthèse, ce confinement, on reprend peu à peu. Il y a des mesures sanitaires, c'est pas comme avant, effectivement. Et puis, il y a quelque chose, on est entre le début des vacances bientôt, une école qui n'a pas vraiment repris, on a envie de recroquer dans la vie et les terrasses participent à ça. Et c'est vrai qu'on sent bien qui a une envie de renaissance. En même temps, c'est très positif pour l'économie parce qu'il y a aussi une confiance qui revient. On va vers du positif, on sort du tunnel. Et ça, c'est quand même très important.
Françoise Fraisseuse.
Oui, alors moi, ce qui me frappait dans la carte du déconfinement qu'on a découvert jeudi dernier, c'était au fond ce point orange au milieu d'une France toute verte, c'est-à-dire cette espèce de régime d'exception qu'on impose encore à la capitale, qui ne peut pas rouvrir autant que les autres ses activités qui a fait la capitale, c'est-à-dire les spectacles, les salles de danse, les salles de spectacle, et puis on voit qu'il y a quand même le port du masque obligatoire dans les transports, on voit une difficulté de la capitale à se remettre en mouvement. Et en même temps, quand vous voyez hier ces jours radieux où les gens pouvaient aller dans les jardins, et on voyait bien que les gens n'avaient plus envie de porter le masque, plus aucune envie d'être dans le confinement. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que le gouvernement a été extrêmement prudent parce qu'on lui demandait à l'époque d'être extrêmement prudent dans le déconfinement. Et d'ailleurs, quand vous voyez les sondages sur l'attitude d'Édouard Philippe, il est plutôt plébiscité dans cette idée d'avoir fait un confinement, un déconfinement en deux, voire trois étapes. Et en même temps, on a l'impression là que les mesures de sécurité sont presque trop importantes par rapport à ce qu'on a l'impression de vivre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le virus a disparu. Et c'est ce paradoxe qu'il faut gérer, qui fait qu'on n'est pas tous complètement heureux, qu'on est encore assez inquiet, mais qu'on a une demande de liberté très forte. Ça, c'est sûr.
On a compris qu'il fallait porter le masque, Martin Blachier, mais on ne sait plus trop pourquoi.
Alors oui, absolument, ce qui vient d'être dit est capital. Hein. Le virus a absolument disparu, puisqu'il y a 140 foyers aujourd'hui qui sont identifiés en France. Donc on sait exactement que le virus est encore parmi nous, et on sait que tout va dépendre de nos comportements. La phase 1 du déconfinement a été très légère, on le sait, parce que tous les gens qui ont surveillé le comportement des Français avec des outils digitaux remarquez que pendant cette phase 1, les comportements ont été très proches de ceux qu'il y avait pendant le confinement. Là, on est dans la vraie phase de vérité, cette phase de déconfinement qui a été très allante. Hein. Moi, je suis tout à fait en ligne avec ce qui a été proposé, mais c'est du vrai déconfinement. Probablement que le virus va recirculer un peu plus que ce qu'il a déjà circulé. Il ne faudra pas paniquer, il faudra savoir quoi faire à ce moment-là, mais c'est un peu en ce moment que tout va commencer pour moi.
C'est curieux parce qu'on nous disait le 11 mai, prochain rendez-vous important, dans 15 jours, durée d'incubation, etc. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est que le vrai rendez-vous avec l'épidémie, avec la vérité de ce qui peut se passer, une éventuelle deuxième vague, c'est dans 15 jours.
Alors, je pense que parler de deuxième vague, ce n'est pas forcément les termes qui sont les plus appropriés. Je pense qu'il faut parler de recirculation du virus. Et ce qui est clairement attendu par l'ensemble des gens qui étudient le virus, qui le modélisent, c'est que le virus circule plus dans cette nouvelle phase de déconfinement que dans la phase précédente, puisque les contraintes sont en train d'être levées. Donc il va plus circuler, je pense qu'il ne faudra pas paniquer. Il y aura certains comportements à avoir si on voit qu'il recircule beaucoup plus. Je pense qu'il y a deux choses importantes. La première chose, c'est d'éviter les grands rassemblements, particulièrement à l'intérieur, puisqu'on a vu en Corée, c'est les boîtes de nuit qu'on relançait, en Iran, c'est les grandes cérémonies religieuses et les fêtes de famille qui n'avaient pas pu être pendant le confinement, qui ont relancé. En Iran, on est à quasiment 3000 cas par jour, hein, donc c'est bien reparti. Et puis l'autre chose, c'est que si jamais ça repart, il faudra absolument dire aux personnes vulnérables de faire attention, puisque c'est eux qui risquent de réembouteiller le système de santé si le virus recircule beaucoup plus.
Pourquoi on ne peut plus parler de deuxième vague ?
La deuxième vague, ça correspond à une deuxième exponentielle, c'est-à-dire un pic qui est incontrôlable. Chaque jour que vous perdez, c'est des milliers de personnes qui sont contaminées. En plus, c'est un peu la phase où finalement vous avez déjà perdu le contrôle. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment la circulation du virus, le nombre de nouveaux cas par mois. Et s'il y a une seconde vague, elle se verra dans des semaines, peut-être quelques mois, selon nos comportements. Je pense que vraiment, ce qu'il faut faire, c'est surveiller nos comportements, voir la circulation du virus et avoir des grands interdits quand même encore pendant cette phase 2.
Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, avec la connaissance naturellement qui est la vôtre, à tous ces gens qui se disent « j'ai tellement envie de retourner en terrasse, j'ai tellement envie d'aller boire un verre, et puis au bout d'une heure, le masque, ça me gêne, et puis je me rapproche, et puis on passe du temps ensemble, et puis on rit ». Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ?
Je leur dis que dans les dernières simulations qui ont été faites, le masque joue quand même un rôle important. Il y a eu beaucoup d'incertitudes autour de ça, mais l'efficacité du masque reste déterminante dans ce qui va se passer par la suite. Je leur dis, sortez, ayez une vie sociale, il faut revivre. Aller en terrasse, c'est très bien, mais évitez les situations particulièrement à risque. En particulier, n'allez pas dans les grands événements, ne restez pas trop longtemps avec beaucoup de gens dans un endroit confiné, et vous pouvez tout à fait profiter de la vie dans des conditions qui respectent les distances de sécurité. Et le masque, essayez de le porter au maximum pour que ce soit supportable pour vous. Je ne peux pas dire tellement plus.
Deux éléments. J'ai vraiment l'impression que le 2 juin, aujourd'hui, est le nouveau 11 mai. C'est-à-dire que le Premier ministre souhaitait prudemment, comme le disait François Fressos tout à l'heure, repousser les échéances. Le président de la République voulait être un peu plus rapide, plus pressé, et Édouard Philippe avait réussi d'une certaine manière à faire en sorte que le 11 mai, un peu discrètement, se déplace au 2 juin. Et comme ça vient d'être dit, le 2 juin est le vrai rendez-vous. Mais le second point, c'est que dans cette période, il va vraiment avoir une différence selon les âges et les catégories. C'est-à-dire que les plus âgés, les plus fragiles, les plus vulnérables sont invités à rester beaucoup plus prudents que les autres. Évidemment, tout le monde se mélange, etc. Mais il y a un discours implicite qui est, si vous êtes un peu plus âgé, vous avez plus de 65 ans, soyez plus prudent que les autres. Et quand on regarde de près et je parle sous le contrôle de Martin Blachier, bien évidemment, mais quand on regarde le bilan de l'épidémie au bout de 2 mois et demi, on voit bien que les plus jeunes, il y a 340 décès chez les moins de 50 ans, 1100 ou 1200 décès chez les moins de 60 ans. On voit bien que l'épidémie a frappé majoritairement les plus âgés, qu'il y a une solidarité envers des plus jeunes vers les plus âgés, mais dans la période qui rentre,
c'est fini.
Chacun reprend un peu de sa liberté parce que le pays doit repartir aussi, mais psychologiquement, tout le monde a compris maintenant que les plus fragiles doivent faire plus attention que les autres.
Boire un café en terrasse, retourner au musée, prendre sa voiture pour faire plus de 100 km et retrouver les siens, des gestes du quotidien qui ont retrouvé une saveur particulière aujourd'hui, malgré des contraintes nouvelles, les règles sanitaires avec lesquelles il va donc falloir apprendre à vivre, à travailler. Victoria Rouxel, Emmanuel Bach et Juliette Vallon.
Ça arrive aujourd'hui, Titi. Il manque juste le saumon qui est mis à mariner. Sinon, on a tout.
Dernier préparatif pour le chef Christian Etchebest avant de rouvrir les portes de son restaurant. Et dernière recommandation à son équipe.
Allez, le masque. On respecte tout bien. Les mains, on se lave bien les mains.
Dans cet établissement du 15e arrondissement, on suit les consignes données par le gouvernement. Ici, tout a été pensé pour accueillir le plus de clients possible.
Entre chaque table, on a mis un mètre. Ici, par exemple, d'habitude, on n'a pas le droit. Mais on a réussi avec l'autorisation de la mairie. On a laissé 1,60 m pour que les gens puissent passer. Et là, ça va gêner personne. Ça, c'est un rajout. Maintenant, nous, il nous faut le beau temps. Hein.
Un patron heureux de retrouver sa clientèle. Attablé, plusieurs habitués et des amis heureux de se retrouver.
Ça faisait 3 mois qu'on ne s'était pas vus, à part sur les, via les réseaux, et donc avec les house parties ou bien les FaceTime. C'était le seul moyen de pouvoir se voir et de partager des petits moments.
Vous avez manqué cette vie parisienne comme ça ?
Ah oui, ça nous a manqué et on ne reconnaissait pas Paris.
Durant le confinement, ce restaurant a assuré 12% de son chiffre d'affaires grâce à la vente à emporter. Le chef s'attend aujourd'hui à une reprise progressive.
On y va là. On sait très bien que le chiffre d'affaires, il est impacté. Moi, le soir, ici, j'ai 30% de touristes à 19h30. On sait qu'on ne les aura plus. On sait qu'il y a une frange de la population française et parisienne qui ne va pas vouloir aller au restaurant de suite. Donc, on sait très bien que c'est impacté. Moi, je pense que chaque entreprise qu'on est, il y a un patron. Il doit adapter l'opérationnel, le côté financier. Nous, on est pas mal de salariés ici. Aujourd'hui, il y en a qui sont restés au chômage. Et après, on va faire des roulements, voilà.
Ici, en Île-de-France, situés en zone orange comme Mayotte et la Guyane, les restaurants ne peuvent rouvrir que leurs terrasses, contrairement aux établissements situés en zone verte. Le déconfinement en phase 2, c'est aussi la réouverture des écoles, collèges et lycées. Retour à l'école, retour aussi à la liberté de circulation ce mardi. Les Français peuvent désormais voyager à plus de 100 km de leur domicile. L'occasion de reprendre le train.
Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des gens à côté de moi. Voilà, non, c'est pas... Je suis pas inquiète de ce côté-là.
Même si la question de la proximité demeure une angoisse pour certains.
Ça ne m'inquiète pas outre mesure. Maintenant, si la personne se met à tousser, je changerai de place.
C'est aussi l'heure de la rentrée pour certains musées, les plus petits, comme celui de Marmottan-Monet. Port du masque obligatoire, signalétique stricte. Les lieux culturels doivent s'adapter.
Il était important pour nous de préserver des assises et donc nous avons aménagé ces bancs avec une signalétique simple, sobre, mais qui est propice à la contemplation.
Et bonne surprise, les visiteurs sont au rendez-vous.
Près de 150 visiteurs qui ont réservé leur créneau horaire. Ce qui est important pour nous surtout aujourd'hui, c'est d'ouvrir les portes, c'est de faire revivre la peinture. Il est absolument déterminant que la vie culturelle reprenne, c'est un lien de sociabilité. C'est aussi, j'allais dire, un poumon pour la ville de Paris et pour ses habitants. Et donc nous sommes extrêmement heureux de pouvoir réouvrir aujourd'hui.
Un contexte sanitaire qui permet finalement aux visiteurs de découvrir la peinture d'une toute autre manière.
À chaque fois que je vais dans des musées, c'est complètement rempli.
Surtout à cette période de l'année où il y a quand même pas mal de touristes. Là, c'est assez magique d'avoir le lieu et le silence juste pour nous.
Le déconfinement, phase 2, une liberté retrouvée, savourée, même si elle s'accompagne aussi de certains inconvénients. Ce matin, plus de 200 km d'embouteillage ont été recensés en Île-de-France, un niveau inférieur à la normale, mais jamais atteint depuis le début de la crise sanitaire.
Et cette question qui nous est posée ce soir, pourquoi les TGV ne vont plus appliquer la règle de un siège sur deux alors que le virus est toujours là? C'est Marie-France qui habite à Paris qui nous pose cette question. Martin Blachier, si je me souviens bien, avant le reportage, vous nous avez expliqué que ce qu'il fallait absolument éviter, c'est les endroits confinés où il y a beaucoup de monde et faire attention de ne pas rester trop longtemps à côté ou face à une personne. Là, on est typiquement dans ce scénario.
Oui, alors c'est pour ça qu'on encourage de porter le masque dans ces cas-là. C'était l'idée de ce qui avait été proposé dans les transports en commun. C'est dans ces cas-là, c'est le masque et le masque fonctionne assez bien. Donc dans la mesure où on porte des masques et on évite au maximum le risque. C'est vrai que la réduction de risque peut être assez importante avec le masque. C'est sûr que c'est pas l'idéal.
Donc on peut prendre le train et passer 4 heures à côté d'une personne sans prendre de risque. Pourquoi cette décision a été prise, Dominique? C'est au début, c'était vraiment la règle du 1 sur 2 et très vite le ministre a annoncé qu'il mettait un terme.
Il y a deux hypothèses. La première, c'est de dire les raisons économiques l'emportent, et on ne veut pas croire qu'il n'y ait que les raisons économiques qui l'emportent sur les raisons sanitaires, mais il y a évidemment une équation SNCF qui est très compliquée. Elle perd des milliards d'euros. C'est-à-dire qu'elle avait déjà perdu beaucoup avec les grèves retraites, et elle a évidemment perdu depuis le 17 mars énormément. La seconde question qu'on peut se poser, c'est, et ce qui est un peu troublant depuis le début, c'est pourquoi le gouvernement ne publie-t-il pas les scénarios épidémiologiques? Pourquoi nous n'avons pas d'éléments sur la table? Vous savez, Angela Merkel a fait une déclaration il y a un mois et demi pour dire, pour expliquer aux Allemands, écoutez, si le R0 qui commençait à devenir populaire, c'est-à-dire le taux de reproduction du virus, de la contagion, passe 1, voilà quels seront les effets sur notre système de réanimation, etc. En France, nous n'avons pas eu en main les scénarios, que ce soit de l'Institut Pasteur, que ce soit de l'École de haute santé publique de Rennes, que ce soit... Alors, il y a les scénarios de Martin Blachier qui ont été publics, mais les scénarios sur lesquels Édouard Philippe et le gouvernement ont fondé toutes leurs décisions...
Ça changerait quoi?
Eh bien, ça permettrait quand même de dire, là, on sent bien que les risques sont très faibles, quasi nuls, un peu plus élevés, etc. Et dans ce cas-là, l'opinion dans son ensemble comprendrait un peu mieux les décisions qu'ils ont prises. Et effectivement, quand on voit cette décision sur les TGV, on a du mal à comprendre.
C'est vrai qu'il y a plusieurs décisions qui sont difficiles à comprendre. On pourrait parler aussi du sujet de la Corse, qui reste pour l'instant confinée. Il est impossible de se rendre...
Sachant, Édouard Philippe, aux questions d'actualité, a dit tout à l'heure qu'il allait, par décret, ce soir, modifier le décret sur les vols.
Sur les vols, parce qu'il y avait une ambiguïté. On pouvait y aller en bateau, mais pas...
Mais pas en avion.
Martin Blachier, sur la publication des scénarios des épidémiologistes dont vous êtes, est-ce que ça changerait quelque chose dans l'adhésion aux décisions, à votre avis, pourquoi ça n'a pas été fait?
Moi, je suis convaincu que c'est capital. Je pense, c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs, c'est que je pense qu'il faut de la clarté, de la transparence pour que les gens comprennent que ce qui est fait est maîtrisé et qu'il y a quelque chose qui est prévu pour la suite. Et en particulier, sur les personnes vulnérables, je l'ai suffisamment dit et redit, je pense qu'il faut être très clair, c'est-à-dire si jamais le virus circule et que c'est peu contrôlable, il y aura deux situations. C'est soit on restoppe toute l'économie, soit on demande à une partie de la population de faire particulièrement attention. Ben ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, et ça aurait pu être communiqué, et ça aurait pu être... les gens peuvent le comprendre de manière très simple, donc effectivement. Et puis je pense que les gens... Ça n'a pas été publié aussi parce que le travail n'a peut-être pas été fait, tout simplement, par ces agences qui ont été citées préalablement.
Il me semble que dans la phase actuelle, ce qui domine beaucoup, c'est pour le gouvernement, c'est de sauver la saison touristique, en tout cas. ce qui peut encore rester de la saison touristique. Je pense que l'ouverture des bars et des cafés, c'était de faire en sorte qu'en juillet, août, on soit opérationnel pour accueillir un minimum de personnes. Les TGV, c'est pour donner le signal qu'en juillet, août, tout refonctionnera normalement. Et je pense que la prochaine étape, c'est effectivement fin juin, quand le Premier ministre dira ben, voilà, où on en est très exactement. Mais c'est vrai qu'on est passé d'une période où on était très alerté sur le danger à une période où, au fond, on a l'impression que le virus a disparu et qu'il faut pouvoir se projeter dans l'avenir. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté à communiquer, de communiquer, mais qu'on sentait aussi dans la divergence qu'il y a pu y avoir entre le président de la République et le Premier ministre. Le président de la République était très allant pour déconfiner plus vite et le Premier ministre était beaucoup moins allant. Et on voit aujourd'hui qu'on a l'impression qu'on veut rattraper un peu le temps perdu et qu'il faut absolument sauver la saison touristique.
Et Fanny Guinochet, le discours de la peur, si on peut l'appeler comme ça, aujourd'hui, il est porté par le ministre de l'économie, par Bruno Le Maire, qui a redit ce matin aux Français « le plus dur est à venir » et qui ne cesse d'alerter sur les conséquences économiques, notamment voilà, sur le nombre de faillites et sur les chiffres de l'emploi. Avec cette idée, alors je vous pose la question, à quoi ça sert de porter un message comme celui-ci auprès des Français? Quel est le but?
Le but, c'est justement que les Français suivent les mesures barrières, les gestes barrières, pour éviter un reconfinement, comme ça a été dit, à un moment s'il y a une deuxième vague. Parce que là, la France a tellement décroché à des niveaux tellement conséquents, et c'est pas fini, toutes les indications de la ministre du travail disait encore qu'il y aurait 10% de chômeurs à la fin de l'année. Donc ce que veut Bruno Le Maire, c'est absolument éviter qu'à un moment on repasse par un reconfinement, même si ça ne sera peut-être pas un reconfinement total. Il faut que le moteur de l'économie reparte. Ça, c'est essentiel parce que la France, sinon le pays va vraiment vivre des heures sombres. Sachant qu'en plus, quand vous regardez par exemple rien que les chiffres de l'emploi des derniers qui sont tombés là, la semaine dernière, c'est essentiellement des contrats courts. Finalement, les gens qui avaient des contrats courts ou des intérimaires qui n'ont pas pu travailler au mois d'avril, qui se sont inscrits. Tous les plans sociaux, les faillites, ça va être à la rentrée, parce que là, on est en train de gérer les licenciements, de préparer les plans d'économie. Donc, c'est aussi ça que voit arriver le ministre de l'économie.
Est-ce que ça traduit un débat que vous avez exprimé dans l'un de vos éditos, hein, Dominique Seux, sur une question qui est en train de monter, sur est-ce qu'on n'en a pas trop fait? Est-ce qu'on n'a pas trop fermé l'économie? D'ailleurs, Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, a estimé dans une interview dans votre journal, Françoise Prezos, que le vocabulaire guerrier du président a fait peur, qu'il a tapé trop fort et que du coup on aurait trop fermé la vie sociale, l'économie pour des raisons sanitaires, et c'est ce qu'on serait en train de payer économiquement aujourd'hui.
Alors, vous avez raison, c'est une question qui a traversé les milieux économiques. Oui. Ils se sont tournés dès la mi-avril vers le pouvoir en envoyant des SMS à Emmanuel Macron, qui en avait d'ailleurs un petit peu assez, paraît-il, pour lui dire il faut redémarrer maintenant parce que là, nous allons toucher le fond, en gros. Bon. En réalité, il fallait faire le confinement, c'était inévitable. L'épidémie était répandue à un tel niveau qu'il était difficile de ne pas faire un lockdown, de ne pas bloquer les choses. Après, la question, c'est de savoir si, dans les curseurs, on est allé un petit peu trop loin sur tel ou tel secteur. Par exemple, les travaux publics, il y a eu un arrêt des travaux publics qui est totalement atypique en France par rapport à ce qui s'est fait dans la plupart des pays, y compris l'Italie. Allemagne, Italie, Espagne. Les travaux publics se sont arrêtés de manière incroyable pour les raisons sanitaires de ça. Est-ce qu'on est allé trop loin? L'économie française, au premier trimestre en tout cas, c'est un peu plus, et je dis bien un peu plus arrêtée que les autres. Elle s'est arrêtée un peu plus que l'Italie, mais ça se touche, plus que l'Allemagne, ça c'est certain, mais l'Allemagne n'a pas été touchée dans les mêmes proportions. Et la question de savoir si elle peut redémarrer maintenant.
C'est pour ça, vous reposer la question sur Bruno Le Maire. Dire aux Français à qui on dit il faut aller consommer, il faut reprendre une vie, il faut reprendre, dire le plus dur est à venir, d'un coup on a envie de garder ses économies, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène. C'est un petit peu anxiogène. C'est vrai que ce discours, mais il a décidé, lui, d'incarner ce pôle-là. C'est une manière aussi de peser à l'intérieur du pouvoir global pour dire j'ai encore besoin d'argent, en gros, pour aider les secteurs économiques. Donc voilà, c'est un tiroir.
Françoise Fressoz et Fanny.
La difficulté de la période, c'est qu'on en a toujours envie de refaire les scénarios une fois que c'est joué. Et au fond, ce qui s'est passé sur le confinement, il y a eu au début la polémique sur les masques qui a jeté un discrédit assez fort sur la parole publique. Donc je pense que l'idée de faire peur aux Français pour qu'ils se confinent, il fallait le faire pour obtenir une discipline. Ensuite, le corps social aussi a eu des réactions extrêmement prudentes, c'est-à-dire que, par exemple, les travaux publics n'ont pas voulu reprendre parce qu'ils avaient peur de procès, c'est-à-dire de pouvoir être incriminé par des salariés qui auraient été mis en danger. Une partie des syndicats a été très précautionneux. Dans l'éducation nationale, les enseignants ont été très précautionneux. Donc le gouvernement a été conduit du coup à être très 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 prudent et à faire toute une série de protocoles très 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 précis sur le redémarrage. Ce qui explique aussi pourquoi, à partir du moment où on a décidé qu'il fallait qu'on pouvait déconfiner, le retour à la normale se fait beaucoup plus lentement, parce qu'il y a des protocoles à respecter, mais qui datent d'une période où l'opinion publique extrêmement inquiète demandait au gouvernement d'être très précautionneux.
Il y a une étape d'allègement des protocoles qui est prévue ?
Eh ben, par exemple, très, très clairement, regardez ce qui se passe dans l'éducation nationale. Le protocole est énorme. Les enseignants l'ont demandé. Au début, les parents d'élèves et les professeurs ne voulaient pas retourner en cours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? Les parents d'élèves qui disent « Mais pourquoi mes enfants ne viennent pas ?» Et au fond, le ministre qui dit « Non, non, mais on ne peut pas quand même enlever le protocole maintenant. » Donc, une partie de l'activité économique reste bloquée.
Et on va en parler dans un instant de la question spécifique de l'école, parce que vous avez raison, quand on dit des reprises pas si simple, c'est en partie parce qu'il y a tout un tas de salariés qui ne peuvent pas reprendre leur activité parce que leurs enfants n'ont pas école. Fanny Guinochet, vous voulez dire un mot ?
Effectivement, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui...
On va en parler de l'éducation. Je ne voudrais pas anticiper sur le reportage que vous allez voir parce que vous parlez des parents en colère. On va les entendre, mais pardonnez-moi, juste sur cet aspect économique et sur le discours du gouvernement qui doit manœuvrer entre la prudence et la relance.
Oui, et puis je crois que le risque dont parlait Françoise Fressoz sur le risque juridique de tout un tas de secteurs, de chefs d'entreprise qui ont peur qu'on se retourne contre eux, est quand même là encore très présent finalement. Le côté de si on n'applique pas les mesures, si on ne fait pas bien, on aura des salariés qui se retourneront contre nous s'ils tombent malades, est encore très présent. C'est aussi ça qui freine. On est un peu entre les deux. C'est comme si dans la rue finalement, les Français, ils mettent leur masque, qu'on l'a dit, mais ils ont envie de profiter de la vie. Et puis, au travail ou dans un certain nombre de cercles, on se reconfine, on fait très attention. On va devenir schizophrène, c'est ça aussi le risque. D'un côté, on nous dit, vous avez raison, Bruno Le Maire nous dit, il faut consommer, c'est important, il faut sortir vos bas de laine, ayez confiance dans l'avenir. Et puis, de l'autre côté, vous avez une ministre du Travail qui vous dit, il va y avoir 10% de chômage et attention, regardez, on a encore révisé les indicateurs de croissance, la France décroche et ça n'est pas terminé. Donc on est toujours dans cet entre-deux et on n'arrive pas à en sortir et c'est ce qui fait aussi que quelque part ça plombe la reprise et ça risque de plomber l'économie.
Dominique Seux.
Une phrase, c'est qu'en fait la France est malheureusement spécifique sur deux points. Elle a deux forces, le tourisme et l'aéronautique. Le tourisme, première destination au monde, l'aéronautique, nous fabriquons en France les avions. Airbus, en France, en Allemagne, etc., mais notamment en France. Or, ce sont les deux secteurs qui sont les plus touchés par cette crise sanitaire devenue économique. Et donc, je comprends l'inquiétude des pouvoirs publics et l'ensemble des Français sur ces deux secteurs en particulier.
L'inquiétude et les interrogations aussi des Français et des Européens sur la question des frontières, Martin Blachier. Est-ce que, en tant qu'épidémiologiste, l'ouverture des frontières, alors on n'y est pas encore, d'ailleurs des discussions qui sont assez confuses et c'est assez compliqué de savoir qui a ouvert, qui a fermé et pour qui. On a appris aujourd'hui, par exemple, que la Grèce avait suspendu les vols avec le Qatar, parce qu'il y avait eu des cas positifs dans certains de ces des avions qui assuraient la liaison. Est-ce qu'en tant qu'épidémiologiste, c'est une crainte pour vous de voir reprendre l'activité aérienne dont on parlait entre différents pays ? C'est plus difficile de contenir l'épidémie dans ces conditions.
Non, je pense que ce n'est pas du tout une crainte à mon sens. Les pays européens sont à peu près tous dans la même situation épidémiologique et même globalement dans le monde, à part l'Amérique du Sud, une partie des États-Unis. La situation épidémique, elle est globalement synchrone. Donc, à part le fait d'être confiné dans un avion pendant longtemps avec de l'air qui passe et qui peut peut-être faire que s'il y a quelqu'un contaminé, ça contamine les autres personnes dans l'avion, qui est la même problématique que celle du train. Honnêtement, il n'y a aucune raison épidémiologique à fermer les frontières, de même qu'il n'y a aucune raison à fermer les frontières départementales, régionales, à mettre Paris en orange, à mettre les autres régions en vert.
Alors pourquoi ça, on l'a fait un peu pourquoi on l'a fait, Martin Blacher?
Pourquoi on l'a fait? Il y a plein de choses qu'on a fait qui ont moins de sens que d'autres. Hein. Donc, je ne peux pas justifier des choses. La fermeture des frontières, honnêtement, ça n'a jamais été quelque chose de fondamental dans l'épidémie. Je voudrais juste faire une réflexion sur est-ce qu'on en a trop fait. Oui. Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première raison, c'est que clairement, il y avait un pic et qu'il fallait casser ce pic. Les pays qui ont cassé le pic plus tardivement, ils le payent aujourd'hui. Et en plus, on a une structure d'âge en France qui fait que ça aurait pu faire très mal, ce pic. Il y a des pays plus jeunes, ça s'est été pris plus tardivement, mais ça fait moins mal comme ailleurs. Mais en France, ça aurait pu vraiment être très douloureux. Et l'autre chose, c'est que même les pays qui ont moins fermé l'économie ont un impact économique qui est considérable, comme la Suède, puisque finalement, c'est un impact économique qui est global. Donc honnêtement, je ne pense pas qu'on en a trop fait. Je ne suis pas sûr que ce soit un débat...
Alors, vous avez raison, sauf que c'est l'objet d'une commission d'enquête parlementaire, en tout cas de revenir sur la gestion de cette crise menée par les Républicains, qui posent la question de se dire « plus jamais ça », essayant de savoir comment on aurait pu gérer, comme on l'a fait en sauvant des vies, c'est ce qui s'est passé avec le confinement, mais sans mettre à terre notre économie. C'est légitime de mettre en place cette commission d'enquête parlementaire ?
Ah oui, tout à fait. C'est légitime parce qu'on a quand même vu que les structures étatiques, en tout cas dans la prévention des risques sanitaires, n'étaient pas du tout au point. Donc c'est tout à fait normal de réfléchir à pourquoi ça s'est passé comme ça et est-ce qu'on peut rétablir quelque chose d'autre. Mais l'autre symptôme qu'on peut voir aussi, c'est qu'au fond, Emmanuel Macron a tenté de chercher l'union sacrée pour gérer cette crise et qu'il ne l'a pas obtenue, notamment parce qu'il y a eu toute cette polémique sur les masques et puis parce qu'il y a la proximité de la présidentielle qui fait que tout le monde maintenant est déjà tourné vers la préparation de la présidentielle. Donc la commission d'enquête, c'est ça, c'est à la fois de dire... tirer les leçons, et ça c'est tout à fait normal pour une démocratie, de se remettre ensuite en état de protection sanitaire, et deuxièmement, essayer de chercher des poux au gouvernement, entre guillemets, et c'est exactement comme toutes les actions devant la Cour de justice de la République, où ils vont essayer de demander des comptes pour montrer que le gouvernement a failli.
Est-ce que c'est trop tôt au niveau épidémiologique pour tirer les enseignements de cette crise? Est-ce que vous le ferez? Est-ce que les spécialistes le feront? Est-ce qu'ils l'ont même déjà fait?
Ce qui est fait en ce moment, c'est beaucoup d'études pour essayer de voir les effets indirects. Il y a une étude qui a été faite par des gens de l'HEGP qui montre que la mortalité par infarctus a explosé parce que les gens sont beaucoup plus morts des infarctus qu'ils faisaient. Il y a une étude qui a été faite dans le cancer où on voit que la mortalité par cancer, par retard d'accès aux soins, a explosé aussi. Donc en ce moment, d'un point de vue épidémiologique, c'est ces études qui sont faites, c'était de voir tous les effets indirects de l'épidémie en plus des décès par Covid sur toutes les autres pathologies.
Pas forcément lié au virus lui-même, c'est bien ça?
Exactement, exactement. On se rend compte qu'il y a une mortalité indirecte qui a été très importante et probablement que le bilan Covid sous-estime énormément l'impact sanitaire de cette épidémie et de ce confinement.
Et on est bien d'accord que pour l'instant il y a des études mais qu'on n'a pas les réponses, sinon vous les auriez données.
Si, je vous les donne, La mortalité par infarctus, elle
oui,
a explosé.
Mais les explications, parce que c'était des gens qui n'étaient plus suivis, par exemple?
Alors, il y a des pistes qui sont émises. Les gens n'allaient plus à l'hôpital parce qu'ils avaient peur d'attraper le virus. Il y a plein de services qui ont quasiment fermé. Il n'y avait plus d'activité dans les hôpitaux. Les gens qui avaient des cancers ont eu un retard d'accès aux soins. Et vous savez, c'est une maladie évolutive. Donc, si on la laisse évoluer, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des phases qui sont difficilement curables. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui font qu'il y a des gens qui sont morts indirectement à cause de cette épidémie.
Ce genre d'étude est très intéressant et en même temps c'est très compliqué à analyser parce que les infarctus, ça peut être simplement des personnes qui sont restées malades du Covid à domicile et qui ont eu une insuffisance pulmonaire ou coronarienne à la fin. Donc en fait, c'est très compliqué de faire la distinction. Les commissions d'enquête, elles sont évidemment nécessaires, mais que vont-elles conclure ? Elles vont dire qu'il aurait fallu plus de masques, plus de tests et des indices épidémiologiques pour repérer à l'avance comment l'épidémie va arriver. Donc on ne va pas découvrir énormément de choses. Ce sera utile pour bâtir un nouveau système, pour voir si on est capable de fabriquer tel et tel matériel.
Sur le fonctionnement de l'appareil d'État, disait Françoise Fressos.
Je suis d'accord avec Françoise Fressos pour dire que faire a posteriori le procès de ce qui n'a pas été fait est à la fois... utile, mais un peu vain quand même, et probablement trop facile.
Alors, ne leur parlez pas de retour à la normale. Dans de nombreuses régions françaises, la reprise de l'école reste une illusion. Une journée de classe par semaine, des élèves refusés parce qu'ils ne font pas partie des élèves prioritaires, des parents qui jonglent et qui ne peuvent pas reprendre normalement le travail. La pression monte sur des établissements contraints, eux, d'appliquer des protocoles sanitaires très lourds, très stricts. Reportage Barbara Steck, Arnaud Fora et Emilien David.
Ouais, alors là, c'est toi, regarde. Et regarde les trucs à faire qu'a posté la maîtresse.
La salle à manger de la famille Makinski est désormais une salle de classe pour Agathe en CE2 et Aurore en grande section de maternelle. Dans le rôle des instituteurs, leurs parents, cadres dans le secteur privé, qui jonglent comme ils peuvent entre télétravail et école à la maison, une demi-journée chacun.
J'essaye de faire les deux en même temps, du coup. Donc, voilà, je dispatche un petit peu le travail et puis en même temps, je réponds à mes mails. Et puis quand j'ai des coups de fil, j'essaye que ça se coïncide avec les récréations où on s'organise, voilà. Et on est sur ce rythme, du coup, de parents, instituteurs et de travail à temps plein depuis mi-mars. Ouais, voilà. Ça commence à être un peu long, j'avoue.
Les enfants ont repris le chemin de l'école, mais que partiellement. Un jour par semaine pour Agathe et un jour toutes les deux semaines pour Aurore. Dans ces conditions, impossible de retourner au travail.
Ce qui est un peu agaçant, c'est le décalage entre ce qu'on nous dit, ce qu'on entend, les discours politiques effectivement qui sont relayés dans la presse, et le fait qu'en fait, non, finalement, dans les faits, ça change pas vraiment. Moi, mes enfants ne vont pas avoir un rythme d'accueil plus régulier à l'école parce qu'on est en deuxième phase de déconfinement. Donc pour nous, ça va pas changer grand-chose.
Anne-Laure Makinski a interpellé le directeur de l'école de ses enfants pour comprendre pourquoi les capacités d'accueil sont si limitées. Réponse, impossible de faire autrement pour respecter les mesures sanitaires. Un problème auquel est aussi confronté ce directeur d'école des Hauts-de-Seine.
Est-ce que tout se passe bien?
Oui.
Tout va bien?
Oui.
Dans son établissement, les règles sont appliquées à la lettre. Pas plus de 15 par classe et 2 mètres de distance entre chaque élève.
Okay. Espacez-vous bien. Les enfants qui déjeunent, vous espacez?
Les enfants se croisent le moins possible. Récréation en horaire décalé et circulation adaptée.
Il y a 3 points d'accès et 3 points de sortie. Donc là, c'est la sortie des CP. Donc ils sortent 5 minutes après les CE2 par un autre accès.
Ici, près de 7 enfants sur 10 sont revenus sur les bancs de l'école. Mais impossible d'accueillir tout le monde en même temps. La capacité d'accueil a été réduite de moitié.
On ne pourra pas accueillir plus de 2 fois par semaine les enfants puisqu'ils ne peuvent pas être plus de 15 par classe et que les classes ne sont pas extensibles. On ne peut pas avoir plus d'enseignants, on ne peut pas avoir plus de salles de classe. Et donc là, pour le coup, on fait vraiment le maximum avec les moyens qui sont les nôtres.
Pour le moment, l'établissement n'a pas encore refusé d'élèves. Mais l'option est envisagée si davantage de parents décidaient de renvoyer leurs enfants à l'école. Une situation qui pourrait être problématique, alors que de plus en plus de parents sont obligés de retourner au travail. Des travailleurs à protéger, selon la FCPE.
Non, c'est
les protéger, c'est être certain que le formulaire qui doit être remis en cas de non-possibilité d'accueillir les enfants puisse être transmis très rapidement, que les entreprises fassent le nécessaire, ne les mettent pas en difficulté. Enfin bref, il faut éviter qu'ils se trouvent pris entre le marteau et l'enclume.
Selon l'Éducation nationale, 22% des écoliers des zones vertes et 14% des zones rouges sont retournés à l'école.
Et cette question, pourquoi avoir maintenu ce quota de 15 élèves maximum alors même que le déconfinement s'accélère? C'est Florence dans les Pyrénées-Atlantiques, Martin Blachier. Est-ce que ça a du sens encore aujourd'hui, 15 élèves par classe? Je parle naturellement du point de vue de l'épidémiologiste.
Ce qui est sûr, c'est que les enfants, c'est là où c'est le moins risqué. Pourquoi? Parce que déjà, les enfants ne sont absolument pas à risque. Donc, c'est-à-dire que si c'est pour protéger les enfants, ça n'a aucun sens, puisque les enfants n'ont aucun risque de faire une forme sévère. Il y a des choses rarissimes qui existent, qui sont la plupart du temps, ont une issue favorable. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que très probablement, les enfants sont quand même moins contaminants que le reste de la population. Donc sur un point sanitaire, honnêtement, ça rend la population où on aurait envie d'aller le plus loin. Et ce n'est pas l'impression qu'on a. On a l'impression que ce n'est pas, pas l'école où on a été le plus loin, alors que c'est là où on aurait dû être le plus allant. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre d'un point de vue sanitaire. Donc ils les ont rouverts en premier. Ça, c'était très bien. Moi, j'étais extrêmement... J'avais une très bonne surprise en entendant ça. Et puis c'est vrai qu'en revanche, les conditions me paraissent vraiment superflues, trop importantes. Et surtout, il n'y a aucun risque pour les enfants, ils transmettent peu, donc vraiment d'un point de vue épidémiologique, c'est dur à comprendre.
Alors le ministre de l'Éducation nationale reconnaît des conditions contraignantes et jusqu'à la rentrée. Il avait dit le 28 mai, Jean-Michel Blanquer, il avait annoncé la réouverture de toutes les écoles pour ensuite dire que si on allégeait le protocole, ce serait pour le coup à la rentrée. C'est vrai que là aussi, on a eu des communications un peu contradictoires.
Je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, c'est plus l'économie, mon champ d'observation. Oui. Néanmoins, vu de l'extérieur, j'ai quand même l'impression que les parents d'un côté et les enseignants de l'autre ont freiné au début des cas de fer pour que la rentrée ne soit pas normale et qu'il n'y ait pas un retour à la normale.
Vous avez raison de le rappeler. Les parents avaient peur, les enseignants avaient peur.
Exactement. Donc, vous aviez d'un côté la FCPE qui disait « il ne faut pas rentrer plutôt au mois de septembre ». Vous avez la plupart des syndicats. Je me souviens d'un syndicat, le SNUP IPP-FSU, qui concluait un communiqué du 29 avril en disant « il n'y aura pas de rentrée le 11 mai ». Ça prouve quand même une certaine envie de cogestion du ministère de l'Éducation nationale, pour dire les choses aimablement.
Vous dites, en gros, ce sont les enseignants qui ont traîné les pieds?
Au début, les enseignants, enfin les syndicats d'enseignants, mais, oui. avec des raisons qu'on peut tout à fait comprendre. Il y a peut-être 10%, c'est ce qu'on entend, des enseignants qui sont à risque pour telle ou telle raison, et donc il fallait faire très attention. Oui. Mais il semble quand même que le climat ait changé depuis le 11 mai. Nous sommes le 2 juin et les parents ont changé d'avis. Les parents veulent voir revenir leurs enfants à l'école et pas seulement pour travailler parce que c'est compliqué d'avoir des enfants, de leur faire suivre une scolarité à la maison. Je suis certain qu'un certain d'entre nous pourrait le dire à ma place. Mais le climat a changé et l'Éducation nationale ne s'est pas encore adaptée ou n'a pas encore adapté ses protocoles à cette envie-là. Parce qu'il y a sans doute des précautions sanitaires, mais Martin Blecher vient de nous dire qu'elles n'étaient pas forcément justifiées.
Fanny Guinochet.
Ah, moi, je trouve ça incroyable d'entendre Martin Blecher nous dire que les enfants ne sont pas contaminants, sont la population la moins à risque, et ce sont ceux à qui on fait payer le plus lourd tribut des contraintes sanitaires aujourd'hui, parce que ceux qui ont la possibilité d'aller à l'école, retrouve une école où effectivement c'est extrêmement difficile pour des enfants de suivre, de rester assis, d'être dans la distanciation sociale, etc. Et de l'autre côté, c'est vrai que ça limite énormément l'accueil des élèves. Aujourd'hui, les chiffres qui étaient cités dans votre reportage, pour moi, je vais vous dire, l'histoire de la gestion de l'école, c'est du même acabit que les masques. C'est un pur scandale. Il y a une rupture d'égalité. On a, sous couvert de volontariat, alors des parents, des enseignants, des mairies qui aussi étaient à l'œuvre, on a laissé des disparités territoriales, des disparités sociales. Ça donne lieu à un moment où on aurait un besoin d'unité, à des dissensions entre les gens. Il faut voir les parents d'élèves qui demandent « toi, à quel moment ton enfant il est pris ?» Il est pris un jour, il est pris deux jours. « Ah bon, mais pourquoi ?» C'est un casse-tête.
Ça sent vécu, Fanny Guinochet.
Mais je vous assure, et ça n'est pas terminé parce qu'en plus, on vient de nous dire que en fait, l'école normale, ça va être en septembre, et que par ailleurs, et là je rejoins ma casquette économie, mais par ailleurs on voit bien que de l'autre côté, les employeurs, ils ne comprennent pas, il y a une patience aussi du côté des employeurs qui fait « ok, bon là vous avez géré vos enfants, mais là ça repart, et il ne faudrait pas qu'on rate des contrats, il ne faudrait pas que… c'est maintenant, donc libérez-vous, débrouillez-vous ». Et je pense que ça c'est quelque chose qui va vraiment peser, sans compter ce qu'on fait vivre aux enfants, quoi.
Fanny Guinochet, quelle est la règle en la matière? Est-ce qu'il y en a une? Effectivement, au début, vous avez raison de le rappeler, on parlait de volontariat. C'est-à-dire que soit vous voulez remettre vos enfants à l'école, il y avait cette idée-là, et puis on a l'impression que les choses ont un petit peu bougé. Quelle est la règle par rapport à l'entreprise? Si, évidemment, la condition étant que l'enfant ne puisse pas être repris à l'école, il faut une attestation. Mais comment les choses se passent dans l'entreprise maintenant, concrètement?
Il faut une attestation, mais évidemment, vous pouvez rester en chômage partiel si vous devez vous occuper de vos enfants. Mais tout ça, j'ai envie de dire, c'est sur le papier. Parce que votre employeur, il en a ras-le-bol du chômage partiel. Il est fatigué d'entendre que quand vous êtes en télétravail, peut-être vous n'avez pas la même productivité. En plus, pour les parents, ce qui est compliqué, c'est que comme il n'y a pas de règles, parfois vous avez des fratries, donc vous avez les uns qui sont pris une journée, ça n'est pas la même journée que l'autre. Alors les enseignants, les écoles, les directeurs, les élus font au mieux, mais c'est vrai que ça donne un résultat, c'est kafkaïen.
Et on voyait la déclaration cet après-midi à l'Assemblée nationale du Premier ministre qui reconnaissait que proposer une demi-journée d'école à des enfants, c'est placer les parents, les employeurs dans une situation quasi impossible à gérer.
Oui, mais moi je voudrais encore revenir à la genèse de cette affaire. Alors c'est vrai qu'il y a eu le comportement des enseignants qui ne voulaient pas que les enfants rentrent à l'école parce qu'ils avaient peur pour eux et parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas en capacité, qui était légitime. Je me souviens des parents d'élèves, énormément à l'époque, disaient c'est un scandale de les faire rentrer parce qu'on va contaminer les enfants et les familles. Et puis, il y avait un certain nombre de maires, moi je me souviens encore de la maire de Paris, qui disait je ne veux pas rouvrir les écoles, c'est trop compliqué et tout. Et le gouvernement a été, par force de persuasion, a réussi. Là, il essaye d'arranger, c'est-à-dire qu'on garderait le protocole de 15, mais il essaye de compléter avec des activités périscolaires, mais qui
la garderie,
ont du mal,
quoi.
Une sorte de garderie, mais qui ont du mal à s'installer. Et donc, je trouve que c'est une faute collective, parce qu'on peut pas, on peut toujours accuser le gouvernement, mais je pense qu'eux, ils avaient la volonté de les faire rentrer vite. Et notamment, Blanquer avait une idée, c'était de dire, si on veut réussir la rentrée de septembre, il faut qu'on soit en capacité d'évaluer le niveau des élèves qui ont été laissés dans la nature 2 ou 3 mois. Et là, ça va être impossible dans la mesure où certains ne vont pas remettre les pieds à l'école ou vont les remettre peut-être 5-6 jours et on verra pas suffisamment. Et ça, je pense que c'est une faute collective de la société française.
Qui a eu trop peur à un moment donné.
Qui a eu trop peur.
On lui a fait peur peut-être, Françoise Pressoz.
Quand la décision a été prise, on était encore sous la grande peur du déconfinement, de cette épidémie. Bon, je pense qu'il y a un mauvais climat aussi à l'éducation nationale, donc ils n'ont pas voulu faire de cadeau non plus à Blanquer. Il y a une grande peur. Souvenez-vous, il y a ce principe de précaution qui a été érigé dans la Constitution sous Jacques Chirac qui fait qu'on ne veut plus prendre de risques. Et il y a aussi cette grande peur derrière de si jamais ça se tourne mal, on peut demander des comptes pénalement aux responsables.
La question, c'est, Françoise Pressoz, est-ce qu'on pourrait accélérer ?
Mais oui, mais regardez, si on accélère, le temps que l'école se mette bien, ça serait quoi ? 15-20 juin, et on arrive à la fin de l'année. Donc, ça voudrait dire qu'on prolonge jusqu'en juillet pour réévaluer les élèves. Je pense que là, si vous touchez aux vacances, là, ça va être une catastrophe. Mais là, je pense que c'est vraiment une occasion ratée pour la société française de montrer qu'elle aurait pu, au fond, assumer collectivement un risque qui, d'après les médecins, était quand même très minime.
En sachant qu'il y a eu des communications un petit peu divergentes de la part des médecins à ce moment-là où on était tous à peu près terrorisés, on entendait parler de cas exceptionnels, mais malgré tout de cas qui touchaient les enfants. Et il y avait cette peur collective que vous avez rappelée à l'instant. Je voudrais juste donner ce chiffre avant de vous donner la parole très vite, Fanny Guinochet. La Seine-Saint-Denis reçoit moins de 10% des élèves. La Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre et le département le plus jeune. Ça, c'est un sujet.
Bah, voilà. Bah, vous voyez, la disparité sociale, elle est énorme. La disparité territoriale, elle va être énorme. Et alors là, on parle d'évaluation des élèves, mais il faut bien imaginer, à mon avis, que la plupart des élèves, même les meilleurs, ont à un moment décroché. C'est un leurre de croire que les parents ont suivi correctement. Quand j'entends le ministre dire on fait du présentiel, du distanciel, les parents, il y a de la continuité pédagogique, c'est une insulte presque. Je pense que ça pose un vrai sujet collectif. Et je crois quand même, juste pour préciser, qu'il y a eu un changement entre le 11 mai et là, la semaine dernière, quand on nous a parlé du déconfinement, donc du 2 juin, il y aurait pu avoir un assouplissement. Comment comprendre qu'on reste avec un protocole sanitaire aussi strict, mais que par ailleurs, on nous explique qu'il va y avoir des colonies de vacances cet été? Moi, vous voyez les non-sens du discours. Je crois que c'est là où il y a eu un petit raté, que le 11 mai, on ouvre et qu'il y ait des peurs, qu'on laisse au volontariat. C'était assez compris. Maintenant, aujourd'hui, où on voit qu'on déconfine de tous les côtés, que le tourisme repart, là, il y a vraiment, je pense, un problème de compréhension et de cohérence.
Pour eux, la reprise, c'est trop tard. Dans cette entreprise d'événementiel basée à Lyon, les 2 mois de confinement ont eu des conséquences irréversibles. La conséquence est brutale, 7 licenciements sur 15 salariés. Reportage Laura Rado, Maxime Liogier et Myriam Zier.
En temps normal, cette société d'événementiel basée à Lyon tourne à plein régime. Avec son activité de traiteur et de food truck, la PME bénéficiait jusqu'alors d'un planning chargé.
On a ici tous nos petits événements qu'on va coller ici un petit peu partout. Et comme vous voyez, mai, juin, juillet, planning d'activité, il n'y a rien. Donc la réalité Covid d'un point de vue entreprise et perspective business, elle est là.
Le Covid, unique responsable de la crise actuelle, et la conséquence est sans appel. Sur les 15 salariés de l'entreprise, 7 viennent d'être licenciés, près de la moitié.
Et que ce soit le plus simple possible pour Marie, en fait.
Parmi eux, Lauriane, chef de projet, embauchée il y a un an et demi. Elle doit partir dès la semaine prochaine, mais pas de rancœur pour autant. Elle dit comprendre que la survie de la société en dépend. Ce matin-là, elle se prépare à transmettre ses dossiers.
On fait pour les collègues, en fait. On se dit que ceux qui restent, au final, sont pas forcément dans une meilleure position que nous. Et puis, de toute façon, c'est la faute de personne. Je pense qu'au contraire, il faut être solidaire, justement, parce que là, je vois pas comment on pourra s'en sortir autrement, quoi.
Ceux qui ne sont pas licenciés ont été placés en chômage partiel et viennent une demi-journée par semaine dans l'entreprise. Un coup dur aussi pour les deux fondateurs qui projetaient de s'agrandir, même s'ils gardent le sourire.
Et puis, bah, rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Le planning de travail est très chargé. Donc, 3 heures par semaine, c'est pas lourd, quoi.
Pour nous, dirigeants d'entreprise, de perdre une partie du projet humain derrière l'entreprise, de travailler, d'écrire, de rêver avec ses employés, tout ça, ça s'arrête là pour le moment. On a prévu que les 3 mois de Covid, on va mettre probablement 5 ans à s'en remettre. Donc 3 mois de Covid, 5 ans, c'est des échelles de temps qui sont délirantes, quoi.
Lauriane, elle, n'a aucune piste pour la suite. À 31 ans, cette jeune femme originaire de Tours est venue s'installer à Lyon tout spécialement pour ce poste en CDI, dans un secteur très attractif. Son entreprise aurait dû atteindre les 40% de croissance cette année.
Je suis arrivée dans une entreprise qui fonctionnait vraiment très bien, qui a une dynamique qui est extra, avec laquelle on fait travailler énormément de gens sur Lyon et on a des projets qui sont top, quoi. C'est vrai que de se dire là du jour au lendemain on va plus travailler là-dedans, ça fait bizarre. Et puis se dire que tout ça c'est à cause d'une pandémie, je pensais pas de mon vivant vivre un truc pareil, en fait. Là pour l'instant j'encaisse un peu le truc. Et me projeter, c'est encore un peu trop compliqué, je pense. Et à mon avis, en septembre, c'est là où je vais me dire « Ah oui, ça va être compliqué ».
Dans l'entrepôt de la société, l'avenir se dessine à la rentrée, avec un événement majeur qui doit se dérouler à Lyon au mois d'octobre.
Là, vous voyez un prototype qu'on va déployer sur le prochain Street Food Festival.
Le Street Food Festival devrait accueillir 40 000 personnes, mais difficile d'anticiper.
Tout le monde essaie de lire dans le marc de café, donc nous, on n'est pas plus informés que les autres. Mais bon, on espère à un moment que notre côté, qu'on va pouvoir reprendre une activité normale à partir d'octobre. Après, on sait que les entreprises de tous les secteurs vont être également touchées, qu'il y aura d'autres plans, qu'avant de repenser à faire la fête et de vivre ensemble au niveau des entreprises, notamment, ça va prendre du temps. Donc on espère à partir du mois d'octobre.
Une reprise qui s'annonce difficile. Selon une enquête, un patron sur 5 en France envisagerait de licencier du personnel dans les mois à venir.
Dominique, ce tous les dispositifs mis en place par le gouvernement, justement pour aider ces entreprises-là, n'ont pas suffi dans ce cas présent. Il va falloir, à un moment donné, et il a fallu faire le choix de licencier.
Il y aura des licenciements, il y aura des dizaines de milliers de licenciements, pour une raison très simple, c'est-à-dire que quand vous mettez en place une économie dégradée, nous nous dirigeons vers une économie dégradée, avec, même si elle redémarre, des conditions de vie, de sécurité sanitaire, parce qu'il faut se laver les mains plus, on distance les tables dans les restaurants, donc globalement l'activité économique est moins élevée, même quand elle redémarre. Et donc, dans ces entreprises-là, dans toute cette économie, vous aurez moins de marge. Et donc, il y a des entreprises qui vont faire faillite. Il y a des entreprises qui vont faire faillite. Tout l'enjeu, c'est qu'il y en ait le minimum, évidemment, et les dispositifs. Et la grande discussion qui a lieu entre les milieux économiques et le gouvernement aujourd'hui, c'est jusqu'à quand les dispositifs de soutien doivent être en place. Le gouvernement se dit, bon, il faudrait un moment ou un autre arrêter l'économie. On l'a mis sous cloche, on l'a mis sous perfusion, mais le chômage partiel, les dispositifs de trésorerie, il faut les arrêter. Les milieux économiques disent, attendez, reparlons-en en septembre. Et puis pour certains secteurs, reparlons-en en décembre, parce que de toute façon, ça va être compliqué. D'un côté, il y a des dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques en plus, et de l'autre côté, des faillites. Et donc, il y a un arbitrage qui va devoir être fait dans les jours qui viennent. Je prends juste un exemple. Le plan de relance que le gouvernement prépare et qu'il annonce
pour la rentrée,
est-ce que ça a beaucoup de sens d'attendre la rentrée ? Évidemment, le gouvernement se dit, bon, je veux attendre d'y voir plus clair. quels sont les secteurs qui s'en tirent, qui ne s'en tirent pas, etc., ouais. pour ne pas arroser le sable. Bon, mais est-ce que ce n'est pas le moment, au mois de juillet, de dire « bon, c'est là-dessus qu'on va insister et qu'on va mettre des moyens ».
Et justement, le gouvernement et Bruno Le Maire a annoncé que le fonds d'aide sera maintenu jusqu'à la fin de l'année, notamment pour les petits commerçants. Cette question qui nous est posée ce soir, Fanny Guinochet, la France et son économie sont-elles plus impactées par cette crise sanitaire que ne le sont les autres pays ?
Bah, Dominique Seux le disait tout à l'heure, effectivement, la France a été plus impactée que les autres pays parce que il y a eu vraiment un moment où le confinement a fait qu'il n'y avait plus d'activité, en tout cas moins qu'ailleurs. On a pris l'exemple du BTP, mais c'est vrai. Et là où c'est compliqué la reprise, c'est que aussi cette crise, elle met en valeur, c'est le coup de grâce pour un certain nombre de secteurs qui allaient déjà très c'est mal. Ça. Prenez par exemple l'habillement. Vous voyez toutes les chaînes que ce soit Kiabi, Lal, André, on entend qu'elles sont en redressement judiciaire. C'était des structures déjà qui allaient mal auparavant et la crise, ça a été le coup de grâce. Pareil pour l'automobile. L'automobile était face à un virage très important. Par exemple, Renault allait déjà mal précédemment. Et puis là, cette crise, ça met Renault joue sa survie. Donc, il y a cette partie de l'économie et c'est pas rien. Et puis, il y a, comme dans votre reportage, l'économie qui allait bien, qui, elle, engrangeait, créait des emplois. Voilà. Et même celle-ci, elle est impactée. Enfin, dernier élément, c'est qu'avant, dans la précédente crise, en 2008, certes, c'était une crise mondiale, mais vous pouviez, il y avait quelques secteurs qui s'en sont sortis. Là, à part les géants du web, à part un certain nombre, mais vraiment l'industrie pharmaceutique, toute l'économie a été affectée. C'est aussi ce qui rend la difficulté de la reprise.
Et nous revenons maintenant à vos questions. L'application Stop Covid n'arrive-t-elle pas trop tard, Martin Blachier, elle est utile cette application, même maintenant, à vos yeux ?
Je pense que c'est utile cette application pour l'essayer et pour être prêt pour la prochaine fois. Effectivement, beaucoup d'impact attendu.
En tout cas, au moment où on entrait dans le studio, elle n'était toujours pas disponible sur les plateformes Apple. Elle devait arriver à midi et à 3 heures, elle est à outre. 15-16 heures, elle est arrivée sur quelques systèmes Android, mais elle n'est pas arrivée sur Apple.
Il paraît qu'elle l'est maintenant, depuis que vous êtes entré sur ce plateau. Pensez-vous vraiment que tous ces protocoles vont résister à l'été ? Depuis une semaine, les comportements se sont déjà bien relâchés. Encore une question pour vous, Martin Blachier.
Je pense que ce qui est important, c'est d'éviter les choses les plus néfastes. Et je crois quand même qu'on va pas réouvrir les boîtes de nuit ou faire des grandes cérémonies religieuses de plusieurs heures dans des endroits confinés. Et si déjà on arrive à éviter ça, ce sera bien.
Les concerts, etc. Pourquoi avoir sacrifié les restaurants sans terrasse qui pourraient faire respecter les règles barrières, les gestes barrières à l'intérieur ?
Eh bien, parce que j'ai l'impression que, enfin, d'après les dernières études, le virus circule quand même moins, en tout cas, et moins nocif à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et que donc, il y avait quand même ce principe de précaution, parce que si vous réouvrez les restaurants à l'intérieur, vous avez quand même le risque que y compris en déplacement, vous puissiez contaminer. Donc, moi, je trouve que quand même, ce principe de précaution était plutôt bienvenu.
Peut-on se rendre en Corse aujourd'hui, Dominique Seux?
Alors, j'ai l'impression que ce qu'a annoncé Édouard Philippe tout à l'heure, c'est qu'il allait réviser le décret interdisant les vols aériens. Il me semble que le président de la communauté de Corse, je ne sais plus quel est le nom exact, avait râlé avec force.
La Corse était particulièrement exposée, Martin Blachier, a été particulièrement touché, d'où cette crainte ou pas ?
Non, je vois pas trop de raisons en particulier. Je reviens sur mon principe de frontière dont je parlais tout à l'heure. Je vois pas de raison de limiter les déplacements d'une zone à une autre.
Comment appliquer à long terme la règle des 15 élèves par classe maximum, Fanny Guinochet?
Là, on se demande, en tout cas, si ça sort en septembre, ça va être très compliqué. Il va falloir l'intégrer. Ça veut dire une autre organisation sociale. Hein. Françoise Pressos parlait de choix collectif. Ça sera un choix collectif.
La visière peut-elle dispenser du port du masque, Martin Blachier?
Aucune étude. Donc, personne ne sait l'impact de cette visière. On a mis longtemps à avoir des données sur les masques. Alors, la visière,
On sait pas.
Ce qui est compliqué, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelles sont les mesures barrières qui sont les. On a une idée, les plus efficaces, mais quelle est la part, les modélisations. Là encore une fois, les masques, les gants, le gel, on ne sait pas très très bien.
Vous voudriez qu'il y ait une étude claire qui dise que si vous portez un masque toute la journée, y compris dans la rue, vous réduisez de temps.
Oui, j'aime les chiffres.
Le risque.
Mais,
oui.
Non, mais ce qui est frappant dans toutes ces périodes de 2 mois et demi, c'est. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'attendais plus de la science. Alors, je suis peut-être un naïf, mais j'espérais à la fois sur les traitements, sur les vaccins. Je me disais bêtement, mais quand le monde entier, des dizaines de milliers de chercheurs, travaillent ensemble, ils vont trouver quelque chose. Et en fait, depuis le mois de janvier, ils ont trouvé un peu, mais assez peu quand même. Et c'est un peu surprenant.
Martin Blachier.
Non, mais c'est le temps. C'est-à-dire que la science peut beaucoup avec du temps. Et en très peu de temps, elle peut faire que des bêtises, souvent.
Et elle s'est parfois précipitée, effectivement, et on l'a vu ces dernières semaines. Les cabinets de psy vont-ils être pris d'assaut? Françoise Pressot, je ne sais pas si c'est à vous de poser cette question.
Mais... Écoutez, moi, je trouve que le confinement, franchement, compte tenu de l'esprit français qui est quand même très rebelle, c'est remarquablement bien passé. Donc on peut imaginer qu'en période de déconfinement, certains phénomènes se révèlent et qu'on découvre quand même des situations psychiques qui ont été quand même difficiles. Donc oui, il peut y avoir une difficile réadaptation au déconfinement et il peut y avoir des consultations qui s'accélèrent.
Il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit, le syndrome de la cabane, paraît-il. Le syndrome de la cabane, c'est-à-dire qu'on a envie de rester confiné encore un certain temps parce qu'ouvrir les volets, aller à l'extérieur angoisserait.
Parce qu'il y a toujours cette peur.
Voilà, c'est ce qu'on entend, effectivement, un petit peu.
Fanny Guénoche, vous voulez dire un mot?
Oui, juste un mot. C'est vrai qu'au-delà de la période du confinement, la période qui arrive va être difficile économiquement. Et ça, je pense que ça risque. On sait qu'il y a aussi un coût social quand il y a des crises, un coût psychologique. Et ça, parce qu'il y aura plein de gens qui vont perdre leur emploi ou qui ne vont pas pouvoir travailler de la même façon. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif.
Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'au fond, ça touche non seulement à la vie sociale et économique, mais aussi aux structures professionnelles. Et il y a beaucoup d'entreprises aussi qui se disent, on est un peu inquiets parce qu'il y a des salariés qui ne veulent pas revenir. Il y en a qui veulent revenir parce qu'ils ne supportent pas d'être chez eux, mais il y en a beaucoup qui ont découvert le télétravail et qui ne veulent pas revenir à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on est dans une période de grand bouleversement et peut-être de remise en cause assez fondamentale de notre modèle productif.
La reprise, pas si simple, c'est le titre de cette émission. Je le rappelle et vous le créditez à multiples reprises depuis le début de cette émission. Vous vouliez dire un mot, Martin Blachier, je crois, sur les conséquences psychologiques.
Je voulais parler des soignants, parce qu'il y a quand même 30% des internes qui ont un syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué. Donc je pense que les soignants vont avoir des conséquences importantes de cette crise.
Parce que trop soumis à la pression?
Oui, parce que effectivement, un phénomène où ils sont complètement figés et focusés dans l'action, et puis ensuite il y a la décrue de la pression, du stress, et qui peuvent entraîner des troubles importants. Et je pense qu'il y a eu vraiment des scènes aussi qui ont été très très difficiles pour beaucoup d'entre eux.
Quand on est épidémiologiste, c'est le genre de conséquences qu'on étudie aussi, les conséquences psychologiques, et je rappelle que vous êtes aussi un expert de santé publique, les conséquences psychologiques d'une épidémie sur une population?
Alors, la plupart des études qui ont été faites sur les syndromes de stress post-traumatique, c'est dans l'armée. Ça a été énormément fait par l'armée américaine, aussi par l'armée française, et on sait que c'est vraiment très grave, hein. Les syndromes de stress post-traumatique, c'est très difficile à traiter, ça peut durer très longtemps. Et c'est très inquiétant de voir qu'il y a quasiment un tiers des jeunes médecins qui en sont atteints. Je pense que là, ça va falloir se poser des questions.
Il va y avoir un problème d'organisation dans certains hôpitaux, notamment en Île-de-France, qui un certain nombre de personnes en contrat à durée déterminée, d'infirmières, de soignants, d'infirmiers, veulent repartir en région et ne veulent pas revenir en Île-de-France. Ça a été trop dur pendant cette période. Et des chefs de service se disent, mais avec qui vais-je travailler dans les semaines qui viennent?
Comment sauver les petits commerces et les PME, PMI? Il y a des aides, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour eux, pour les aider?
Il y en a, mais ce sont eux qui sont dans la plus grande difficulté parce que les salariés et les grandes entreprises ont des dispositifs adaptés. Les TPE, les très petites entreprises, ou les indépendants auxquels on ne pense pas assez, les professions indépendantes, je ne sais pas, les kinés, etc., eux n'ont pas de système adapté. Et donc, ce sont eux qui n'ont... ils n'ont pas un euro de chiffre d'affaires qui est rentré en 2 mois.
Faut-il rouvrir rapidement le pays aux touristes étrangers, Fanny Guinochet?
En tout cas, c'est une grosse part de notre croissance. Donc, ça fera du bien à l'économie si on a de nouveau des Chinois, des Japonais qui viennent consommer en France.
Quelles sont les prévisions de croissance pour l'Allemagne et la zone euro ?
Alors pour l'Allemagne, la dernière prévision est une récession de 6,8%, je crois. Pour la zone euro, je n'ai pas ça en tête, mais entre moins 11 en France et 6,8 en Allemagne, on le voit qu'il y a une différence.
Et il va y avoir peut-être une rivalité entre ces pays voisins.
Oui, parce que le pays qui redémarrera le plus vite va prendre des parts de marché, va rafler des commandes et donc ce sera compliqué pour les autres.
Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.